RFI, Radio France Internationale, il est 5h30 à Bukavu et à Goma, 3h30 en temps universel.
Édouard Dupenoit.
À 4h30 à Paris. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition d'Afrique Matin sur la Radio du Monde. Le journal consacré d'abord à la situation en République démocratique du Congo. 773 morts à Goma cette semaine dans la percée menée par le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Le président congolais Félix Tshisekedi avait appelé à la mobilisation générale, appel qui semble suivi à Bukavu, capitale du Sud Kivu, où nous sommes dans une minute. Une frappe sur un marché d'Omdourman, à côté de Khartoum, elle fait plus de 50 morts. Les sacs mortuaires s'alignent dans la cour de l'un des derniers hôpitaux encore actifs dans la capitale soudanaise. L'armée régulière dénonce une tuerie perpétrée par les forces de soutien rapide du général Emeti. Elle-même renvoie la faute sur les militaires d'Abdel Fattah al-Burhan. Keir Starmer et Navin Ramgoolam se parlent de nouveau autour de l'archipel des Chagos. L'accord de rétrocession semblait suspendu aux nouvelles demandes formulées par Port-Louis, mais aussi au sort de la base américaine de Diego Garcia. Et puis nous sommes à Madagascar enfin pour cette enquête conjointe entre le gouvernement et plusieurs organisations de la société civile. Enquête qui pointe les lacunes du système éducatif ou encore le manque de fonds qui se fait cruellement ressentir dans les écoles. Cela fait donc une semaine ce dimanche matin que le groupe armé du M23, largement soutenu par les forces rwandaises, a lancé une offensive éclair sur Sake puis sur Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises fournissent un bilan humain plus élevé encore que les estimations des Nations Unies. 773 morts, 2880 blessés. Enregistré dans les hôpitaux de Goma. La province du Sud Kivu voit aussi le conflit se propager sur son territoire. Outre un appel au don du sang, on va l'entendre dans une minute, les autorités lancent aussi une vaste opération de recrutement de volontaires, des civils appelés à rejoindre les rangs des Wazalendo, ces milices supplétives des forces armées congolaises dans la guerre contre le M23. À Bukavu, c'est un reportage de William Bassimike.
Tête rasée, visage détendu, Christophe, 25 ans, a décidé d'abandonner ses études universitaires pour défendre l'intégrité territoriale de son pays.
Je décide d'intégrer le Wazalendo pour aller battre les ennemis, les études après. C'est la terre qui nous a laissé nos aïeux et on ne peut jamais la laisser tomber.
Ancien démobilisé des FRDC et des groupes armés, mais aussi des nouvelles recrues des 18 ans révolus, nombreux font part de leur indignation après avoir vu les images de la récente attaque de Goma par les M23 et les militaires rwandais. Mère de 8 enfants, cet ancien chef d'un quartier de Bukavu qui a requis l'anonymat veut épargner les Sud Kivu.
Je vais là pour venger le sang de mes compatriotes congolais qui sont en train de périr dans cette guerre nous imposée par le Rwanda. J'ai 63 ans, je vais me battre, je suis décidé. C'est l'esprit qui se bat, ce n'est pas la force physique.
Ancien leader d'un groupe armé, le député désormais ministre provincial de l'Intérieur, Albert Mourou-Lakash Afokamaïka, a décidé de faire de la sécurité sa priorité. Il lance un message à Kigali et veut rassurer les Congolais.
Que Kagame sache que même s'il décidait de se battre pendant 100 ans, il ne pourrait jamais gagner. Avez-vous déjà vu un chat se battre contre un léopard? N'ayez pas peur.
La période des formations des volontaires reste inconnue. Ces derniers disent vouloir être prêts à temps pour barrer la route au M23. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Autre appel donc des autorités congolaises, celui pour donner du sang. À Kinshasa par exemple, des tentes ont été dressées devant le palais du peuple pour des prélèvements sanguins. Les besoins s'élèvent à 5000 poches selon les autorités sanitaires. Ces transfusions peuvent sauver les vies des soldats et des populations civiles, insiste Roger Kamba, le ministre congolais de la Santé, hier soir lors d'une conférence de presse.
Nous avons vu que les blessés sont très très nombreux, le besoin en sang est très élevé. Et donc nous avons lancé ici une campagne de collecte de sang. J'en profite vraiment pour demander à tous les Congolais de donner son sang. Sincèrement, c'est une denrée très importante pour nos militaires, pour nos Wazalendo, pour nos populations civiles. Ne pensez pas que si vous ne donnez pas, quelqu'un d'autre donnera. Non, vous devez donner parce que c'est comme ça que nous allons nous-mêmes participer directement à la solution. Parce que quand vous donnez du sang, eh bien vous permettez à un militaire de repartir au front. Et s'il était blessé léger mais qu'il a eu besoin de transfusion, vous lui permettez de repartir au front. Vous permettez de le sauver et de permettre que d'autres personnes aussi soient prises en charge.
Roger Kamba, le ministre congolais de la Santé, au micro RFI de notre envoyé spécial à Kinshasa, Alexandra Branjon. Une guerre qui fait rage, elle, depuis bientôt 2 ans. Le Soudan, où la ville d'Omdurman, mitoyenne de Khartoum, a été le théâtre hier d'un nouveau bain de sang. 54 morts, au moins 158 blessés dans le bombardement d'un marché. Les chiffres viennent du ministère soudanais de la Santé, qui accuse d'ailleurs les forces de soutien rapide du général Hemeti d'être responsable de cette frappe. Ce que nient les paramilitaires, en accusant au contraire l'armée régulière. Tout cela alors que la bataille pour le contrôle de la capitale a repris de plus belle depuis la mi-janvier. Paul Lorgerie.
Le bombardement a eu lieu au beau milieu du marché Sabrine. Très vite, les blessés ont été transférés vers l'hôpital voisin d'Al-Nao, l'une des dernières structures sanitaires opérationnelles dans la région. Les images diffusées sur les réseaux sociaux y montrent des sacs mortuaires qui s'entassent dans la cour de la structure. D'après une source sanitaire citée par l'AFP, le personnel manque aujourd'hui d'unités de sang et le syndicat des médecins soudanais a demandé aux docteurs et infirmiers disponibles de se rendre sur place afin d'apporter leur aide. Selon des témoins toujours cités par l'AFP, les obus provenaient des zones contrôlées par les FSI à l'ouest, ce que nient les paramilitaires qui rejettent la faute sur l'armée soudanaise. L'une des positions des forces de soutien rapide dans le sud de Khartoum ayant été la cible d'un raid aérien dans lequel 2 civils ont été tués, note le réseau local Cellule d'intervention d'urgence. La semaine dernière, l'armée soudanaise a en effet lancé une vaste opération pour libérer certains quartiers du joug des FSR. Point d'orgue de cette reconquête, le retour des militaires dans leur quartier général 17 mois après l'avoir abandonné. Mais dans une rare apparition vidéo, le chef des FSR, le général Mohamed Hamdan Daglo affirme que lui et ses hommes reprendront les positions gagnées par l'armée.
Paul Lorgerie, les États-Unis annoncent qu'ils ont mené hier des frappes aériennes en Somalie, mais non pas contre les combattants Chebab, mais contre plusieurs terroristes du groupe État islamique. C'est ce qu'écrit le président Donald Trump sur son réseau social, Truth Social. Ces frappes ont visé un responsable du groupe djihadiste chargé, selon le président, de planifier des attentats ainsi que d'autres terroristes qu'il a recrutés et dirigés en Somalie. Donald Trump ajoute que les frappes ont permis de détruire les grottes dans lesquelles vivaient ces terroristes, qu'elles ont tué de nombreux combattants mais sans porter atteinte aux civils. Les négociations reprennent au plus haut niveau entre l'île Maurice et le Royaume-Uni autour de l'archipel des Chagos. Londres fait savoir que les 2 premiers ministres, Keir Starmer et Navin Ramgoolam, se sont entretenus avant-hier au téléphone. Les deux pays avaient trouvé un début d'accord historique en fin d'année dernière pour la rétrocession de cet archipel, sur lequel Maurice revendique sa souveraineté depuis des décennies. Mais il y a toujours un inconnu de taille dans l'équation, la base américaine ultra-stratégique de Diego Garcia, un site clé pour la surveillance de l'océan Indien. Abdoulaye Rally, quelles sont donc les positions des uns et des autres ?
Cette discussion marque le début d'un dialogue officiel au plus haut niveau entre les deux pays sur l'avenir des îles Chagos. Dans un communiqué, Keir Starmer a insisté sur la nécessité de sécuriser la base militaire américaine de Diego Garcia. Le premier ministre britannique demande, je cite, des garanties solides contre toute influence malveillante. Cette position nouvelle de Londres est liée aux inquiétudes exprimées aux États-Unis au sujet d'une éventuelle influence chinoise dans la région. Pour l'instant, Paul lui n'a pas communiqué sur cette conversation téléphonique entre Keir Starmer et son homologue mauricien Navin Ramgoolam. Cependant, la position de Maurice est claire. Le gouvernement ne demande pas le retrait des Américains de Diego Garcia, mais souhaite réviser les termes de l'accord initial de rétrocession de l'archipel. Pour Maurice, les conditions du bail de 99 ans avancé par le Royaume-Uni pour Diego Garcia posent un problème sur le plan juridique. De plus, Maurice estime que la location de ce territoire stratégique devrait se faire à sa juste valeur. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Il est 7h39 à Port-Louis, 6h39 à Antananarive. Les lacunes du système scolaire de Madagascar passées au crible dans une vaste enquête. 4 organisations de la société civile ainsi que le ministère de l'Éducation viennent de boucler et de rendre publique cette longue analyse du système éducatif à travers l'ensemble de la Grande Île, d'où ressortent plusieurs chiffres préoccupants. On apprend ainsi que près de 2/3 des élèves quittent l'école avant l'âge de 13 ans, faute d'avoir accès au collège, ou encore que les infrastructures manquent globalement de moyens pour assurer leur mission. RFI Antananarive, Guillaume Fabry.
À Madagascar, 65% des élèves ne poursuivent pas leur scolarité au-delà de l'école primaire. En cause notamment, la trop grande distance entre leur domicile et les collèges, qui induit des frais de déplacement et de logement impossibles à assumer pour la plupart des familles. L'enquête montre également qu'un tiers des enseignants sont directement rémunérés par les parents d'élèves, alors même que la constitution malgache prévoit une éducation gratuite et accessible à tous. Ces enseignants doivent composer avec un manque d'infrastructures. Dans la région de l'Andjrouille, par exemple, à l'extrême sud de Madagascar, certaines salles de classe accueillent jusqu'à 90 élèves, explique Farah Randiamananzar, l'une des responsables de l'enquête. Toutes les écoles déplorent par ailleurs des retards de plusieurs mois dans le versement des caisses écoles, ces fonds alloués par l'État pour assurer le fonctionnement des établissements et la livraison des fournitures scolaires. 3/4 des parents interrogés dans le cadre de l'enquête se sont déclarés insatisfaits du système éducatif malgache. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Madagascar encore, où l'on évoque maintenant ce long travail de sensibilisation sur des arbres menacés et sur les écosystèmes qu'ils protègent. Les derniers baobabs que compte la Grande Île se trouvent sur la côte ouest, mais ils sont en grand danger, victimes notamment de la culture sur brûlis que pratiquent les agriculteurs locaux et qui consiste à faire flamber de larges parcelles pour profiter ensuite de la cendre fertile. Or, ces zones dévastées étaient des refuges de biodiversité. Comment faire donc pour adapter ces pratiques séculaires, pour faire entendre aux paysans qu'il y a d'autres méthodes? Cyril Cornu est chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il est un spécialiste mondialement reconnu des baobabs et il est en train justement de monter tout un documentaire sur le sujet.
On a défini un peu une zone d'investigation qui est autour de Belleau-sur-Mer, qui est la zone où il y a les grandes forêts de baobabs et beaucoup de déforestation. Et on a défini en fait un projet où notre objectif, c'était d'aller dans les villages, discuter avec les gens et mettre en place un dialogue qui permettait un échange et une prise de conscience, humblement, mais en tout cas une prise de conscience sur des sujets sur lesquels on a des connaissances intéressantes. C'était la période des brûlis dans le Ménabé, ce qu'on appelle le Hatsake. Et je voulais filmer ces brûlis pour montrer au grand public ce que c'est. Hein. Et c'est apocalyptique comme scène. Hein. Il ne reste rien. Rien du tout. Tout est brûlé. Quoi. La plupart des espèces animales et végétales meurent. C'est vraiment une scène très, très émouvante et difficile à vivre. Et c'est vrai que d'avoir ces images, elles vont prendre du sens par rapport au film que je prépare. Parce que je souhaite montrer ce que c'est qu'un brûlis aussi à l'extérieur. Voilà. Et sur le Global Watch Forest, qui est une instance scientifique qui étudie la déforestation au niveau mondial avec des images satellites, dans la zone dans laquelle nous étions, le taux de déforestation sur 20 ans est de 38%. 38% de la forêt a disparu. Donc c'est énorme.
Cyril Cornu au micro, RFI de Sarah Teto. Quelques mots de sport pour vous parler de cet exploit majeur pour un Français en MMA, les arts martiaux mixtes. Nassourdine Imavov, 28 ans, est venu facilement à bout hier soir de la légende nigériane de l'UFC, l'ancien champion du monde des moins de 84 kilos, Israël Adesanya, victoire par chaos technique dès le début de la deuxième reprise. Victor Missistrano en parle à la une de son prochain journal des sports, le premier de la matinale, dans une heure sur cette antenne.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
Pour l'heure, il est 3h43 en temps universel. Le deuxième acte d'Afrique Matin avec, par ordre d'apparition, notre reportage à Pointe-Noire sur des routes bien mal en point que les autorités congolaises promettent de réparer. Les têtes d'affiche de Denis Epoté, celles et ceux qui méritent de figurer dans l'actualité africaine. Le livre de la semaine, l'ancien correspondant du Monde au Mexique qui nous parle de la lutte contre les narcotrafiquants. Et puis un coup d'œil culturel sur Beyrouth, fantomatique, derrière la caméra de Liana et Renaud. Et ce reportage du jour qui nous emmène donc à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville, et qui nous y emmène un peu qu'un cas, parce que la ville est plutôt difficile d'accès et de circulation. La plupart des routes qui la traversent sont défoncées, elles mettent à rude épreuve les nerfs des chauffeurs et les suspensions des voitures. Les autorités congolaises ont promis de grands travaux de réhabilitation il y a un an de cela. Mais aujourd'hui, elles expliquent que les choses n'avancent pas parce que les temps économiques sont durs. Loïcia Martial nous embarque avec lui pour un reportage un peu secoué.
Nous sommes à quelques mètres de l'hôpital Congo-Malembe, dans le 3e arrondissement. Le véhicule qui nous embarque sous une fine pluie, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure, traverse une zone pleine de nids de poules. Il débouche sur une voie dégradée qui relie les quartiers du 2e et du 4e arrondissement. La voie est bloquée en partie par des travaux qui, visiblement, n'avancent pas, mais provoquent la colère des habitants.
Et rien ne se fait. Et je ne serais pas surpris de constater que jusqu'en 2000X, il n'y aura rien. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir la ville. Il n'y a plus d'avenue. Tout est en lambeaux. Et vous voyez, parfois, on prend un tracteur, on va placer quelque part une pelleteuse pour dire, bon, voilà, les travaux vont commencer, mais ils ne commencent pas.
Plus loin, au bord d'une route, Junior, qui a arrêté momentanément de travailler, s'abrite sous le parapluie d'une vendeuse qui propose des beignets. Il cite pêle-mêle les routes qui nécessitent une cure de jouvence.
Voyez un peu, prenons un peu la route de la ligne 8, là. C'est tellement gaspillé. Siafoumou, pareillement. Vous prenez la route de Ngoyo là, pareillement. Donc finalement, nous les Congolais, on va sur le haut.
Ses collègues chauffeurs n'affichent pas un grand espoir quant à la fin des travaux d'aménagement d'une ville où coule l'or noir.
À Pont-Noir, les routes vraiment ne sont pas comme avant. Hein. C'est toujours dégradé. C'est toujours les travaux ont ralenti. Donc on attend.
Donc c'est pas facile de circuler à Pont-Noir alors.
Ah, vraiment c'est difficile. Nous sommes tels que moi je suis chauffeur. Donc les routes sont dégradées. À toute fois la suspension se gaspille, les roues. Donc on demande au gouvernement d'arranger les routes.
Moi aussi je suis chauffeur. Le gouvernement, il nous avait promis que pour avoir un changement, il va arranger les routes. Nous sommes là en train d'attendre. Mais jusqu'alors, vraiment, je ne suis pas sûr qu'on va arranger ça.
Selon un officiel à Pointe-Noire, il n'est pas encore temps d'évaluer les travaux en cours. Le gouvernement, qui avance souvent une crise économique persistante, a promis, je cite, de faire beaucoup avec peu. Loïsia Martial, de retour de Pointe-Noire, RFI.
À Pointe-Noire, il est 4h46. Les têtes d'affiche dans une minute. Avant cela, les grands titres de l'actualité internationale de ce 2 février 2025. Et Donald Trump qui met donc sa menace à exécution. Il impose 25% de droits de douane sur les produits qui proviennent du Canada et du Mexique. Et 10% supplémentaires à ceux qui existent déjà sur les produits chinois. Le président américain s'en prend ainsi aux trois principaux partenaires commerciaux des États-Unis qui représentent au total plus de 40% des importations du pays. On en parle avec Karine Otten à la une du prochain journal dans un quart d'heure. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, promet des droits de douane en représailles sur les produits américains. Le premier ministre canadien Justin Trudeau déclare que son pays imposera des droits de douane de 25% sur l'équivalent de 103 milliards d'euros de marchandises américaines. Marco Rubio est au Panama pour porter les revendications de Donald Trump sur le canal du même nom. L'immigration sera au cœur de cette tournée du secrétaire d'État américain. Il se rendra ensuite au Salvador, au Guatemala, au Costa Rica ainsi qu'en République dominicaine. Israël confirme une reprise demain des négociations indirectes avec le Hamas sur la deuxième phase de l'accord de trêve. Le Hamas qui a relâché hier trois otages contre plus de 180 prisonniers palestiniens. Cette reprise qui coïncidera aussi avec une rencontre mardi entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président Donald Trump. Rencontre prévue à la Maison Blanche. Il est question maintenant de produits de santé féminins et d'un pilotage à distance des exploitations agricoles. Ce sont les têtes d'affiche que notre consoeur Denise Epoté nous présente chaque semaine. Elle les expose à Nicolas Brousse.
Bonjour Denise Epoté.
Bonjour Nicolas Brousse.
Sur la première marche de votre podium cette semaine, un ingénieur français, Dominique Luissin, a plus de 10 ans en ingénierie informatique. Il a fondé MeTech, une offre digitale pour optimiser les processus agricoles. MeTech faisait partie des 6 startups présentes au début janvier au CES de Las Vegas sur l'Africa Pavillon.
La crise agricole de 2016 qu'ont subi ses parents agriculteurs en Guadeloupe a été un révélateur pour Dominique Luissin, qui décide de mettre son expérience dans le numérique pour apporter des soutiens aux agriculteurs. Les données collectées dans les fermes équipées de panneaux solaires sont traitées grâce à un algorithme et permettent un pilotage de l'exploitation via mobile. C'est un outil précieux d'aide à la décision en temps réel. L'offre de MeTech, qui s'adresse aux agriculteurs, aux coopératives et au gouvernement, porte sur la santé animale, l'agriculture de précision, la sécurité et la traçabilité, l'inclusion et la gestion financière. Les utilisateurs au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans le bassin caribéen et à La Réunion sont unanimes. Les nouvelles technologies offrent une meilleure rentabilité des exploitations et une qualité de vie grâce aux gains de temps et au pilotage à distance. Lors des concours tech au cours des 5 dernières années, MeTech a été finaliste. En 2019, la start-up a remporté le prix Trajectoire 5.0 Innovation Outre-mer, le prix spécial Outre-mer Tech for Future, organisé par la Tribune, et début janvier, lors du CES, le rendez-vous de la high-tech à Las Vegas, elle a remporté le prix Environnement, Social et Gouvernance.
Denise, votre seconde tête d'affiche est polonaise et kényane d'adoption. Johanna Bichel possède un baccalauréat en informatique. Elle a été ingénieure dans une célèbre multinationale informatique. Kasha, la plateforme qu'elle a fondée au Rwanda, répond aux problèmes des femmes en leur fournissant des produits de santé à des prix accessibles.
Pour avoir représenté la fondation Bill et Melinda Gates en Afrique de l'Est, en proposant des stratégies et des solutions technologiques visant à optimiser la chaîne d'approvisionnement des vaccins, du planning familial et d'autres outils de santé publique, la prestation de services de santé, l'agriculture et la fintech, Joanna Bichel a pu mesurer à quel point le commerce électronique pouvait garantir le bien-être social, en particulier dans les zones rurales où il permet de combler les lacunes en matière de soins de santé en répondant aux besoins diversifiés. Fondée et construite au Rwanda, la plateforme Kasha vend des produits de santé et des articles ménagers et livre également au dernier kilomètre au Rwanda, au Kenya, en Afrique du Sud, en RDC et au Burundi. Elle sert de canal pour les fabricants de produits pharmaceutiques et les organisations mondiales de santé. La première femme tech du continent, leader dans l'accès à la santé, a levé en 2023 21 millions de dollars pour élargir son offre en proposant des produits ménagers et travailler à son expansion en Afrique de l'Ouest. En 2024, Kasha figurait dans le top 5 des meilleures start-up africaines.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Et nous, Denise, on se dit à dimanche prochain.
Et vous, Nicolas Brousse, on vous retrouve à 12h30 en temps universel pour Afrique Midi. Merci beaucoup. Autre rendez-vous dominical, la rédaction vous présente un livre qui éclaire un peu plus en profondeur un grand enjeu de l'actualité. On parle du Mexique et du trafic de drogue ce matin. Comment 25 ans de lutte contre les cartels n'ont pas donné les effets escomptés, voire ont eu des effets pervers d'éclatement et de dispersion du trafic à travers le pays. Frédéric Saliba est journaliste, il a été correspondant du journal français Le Monde au Mexique pendant près de 15 ans. Il publie « Cartel, voyage au pays des narcos » et il parle de son ouvrage à Christophe Paget.
Frédéric Saliba, bonjour.
Bonjour.
Peu de temps après votre arrivée au Mexique en 2006, Felipe Calderón, lui, arrive au pouvoir. Il déclare une guerre au narcotrafic. C'est une spirale de violence ahurissante que vous décrivez.
Felipe Calderón est mal élu, en fait. Il a une marge de 0,5% seulement des voix. Et donc, il manque de légitimité. Il s'appuie sur les militaires, l'armée étant l'institution la plus respectée par les Mexicains, pour déclarer la guerre contre un vieux fléau mexicain qui est le narcotrafic, en déployant une force frontale contre le crime organisé. Les narcotrafiquants qui étaient déjà en guerre entre eux déclarent la guerre aussi au gouvernement. Ils s'arment d'armes lourdes, de lance-roquettes, de drôles bombardiers. Donc ce pays merveilleux commence à avoir des luttes armées dignes parfois de scènes de guerre.
Et en fait, vous décrivez une contagion de la violence à toute la société.
C'est ce que j'appelle dans mon livre l'effet cafard, qui est une expression d'expert en sécurité publique mexicain. Quand vous traitez une maison, si vous ne traitez pas les maisons voisines, l'insecte se déplace. Quand je suis arrivé, il y avait 5-6 États concernés par ces violences. Aujourd'hui, on parle de 27 États, voire 28 sur 32. La violence s'est disséminée, ce qui a créé donc sur le plan de la violence une véritable hécatombe, et sur le plan des drogues, un développement notamment des drogues de synthèse et du nombre d'overdoses liées à ces drogues.
Et de fait, paradoxalement, cette guerre contre les narcotrafiquants a causé une augmentation du nombre de cartels.
Felipe Calderón s'est focalisé sur l'arrestation de grands barons de la drogue, ayant une forme de retentissement médiatique et politique. Le seul problème, quand vous décapitez d'une certaine manière un cartel de la drogue, vous créez des guerres intestines, et donc les cartels ont tendance à se fragmenter en gangs plus petits, mais aussi plus violents, dans l'espoir de pouvoir s'imposer face à leurs concurrents.
Ce que vous racontez aussi, c'est qu'il y a eu une alternance politique au Mexique en 2000, et ça crée un déséquilibre dans le pays par rapport au trafic de drogue.
Dans les années 2000, c'est l'achèvement d'un processus démocratique. Le Mexique a été contrôlé par un parti hégémonique. On parlait de dictature parfaite. Donc la démocratie arrive, le pluralisme politique arrive. Et en fait, cet avènement de la démocratie a un effet pervers, c'est qu'elle fragilise l'État central en mettant des nouveaux acteurs à la tête de l'État, alors que le politique contrôlait d'une certaine manière le narcotrafic pendant ces années de dictature parfaite. Il y a un phénomène inverse qui se crée, en tout cas localement, le narcotrafic commence à contrôler dans les régions de production et de transport la sphère politique, nommant ses hommes à la tête des mairies notamment, et terrorisant la population locale pour maintenir une certaine omerta.
Vous racontez aussi les coulisses de votre travail de journaliste. Comment est-ce qu'on travaille sur le narcotrafic au Mexique ?
Nous parlons de conflits de basse intensité. Vous ne savez pas d'où les coups partent. Il existe au Mexique quand même des narco-avocats, des narco-juges, des narco-policiers, et figurez-vous qu'il existe aussi des narco-journalistes. Et donc, nous évoluons dans une atmosphère assez trouble où il faut énormément enquêter, notamment sur ses propres sources, pour pouvoir travailler dans des conditions sereines, non seulement pour ma sécurité, mais plutôt pour la sécurité des gens qui m'informent, qui, eux, sont exposés directement sur le terrain. Moi, étant protégé, j'avais une certaine protection, en tout cas du moins symbolique, alors que mes confrères mexicains et mes sources sur le terrain sont directement exposés. Et d'ailleurs, j'ai certains confrères qui ont perdu la vie.
Quels sont les rapports du Mexique et des Mexicains avec les États-Unis? Parce que ce que vous racontez, c'est que la DEA, la célèbre agence antidrogue américaine, arrêtait les trafiquants que le Mexique leur désignait et laissait ceux qu'ils protégeaient.
C'est un petit peu l'impression que j'ai, moi, après 18 ans tout de couverture de ce conflit. C'est qu'en effet, on est dans un jeu assez trouble où l'État lui-même, on peut se poser la question de savoir s'il souhaite éradiquer le narcotrafic ou tout simplement le contrôler. On le voyait d'ailleurs par rapport aux arrestations. Les membres du cartel de Sinaloa étaient rarement neutralisés. Souvent, il s'agissait de membres dissidents ou déjà sortis un petit peu de la sphère dirigeante du cartel. Et donc, on s'est aperçu qu'en effet, il y avait des complicités à l'intérieur de l'État mexicain. Et c'est d'ailleurs le gros sujet, je pense, aujourd'hui au Mexique. Le ver est dans la pomme administrative de ce pays. Comment arriveront-ils à faire une opération main trempe, comme on l'a pu voir en Italie, par exemple?
Frédéric Saliba, merci.
Frédéric Saliba qui publie « Cartel, voyage au pays des narcos » paru aux éditions du Rocher. Avant de nous quitter et de retrouver le journal de Marion Cazeneuve, un ultime détour par le grand écran pour La mer et ses vagues, long métrage de Liana et de Renaud qui sort progressivement au cinéma. Un musicien et une toute jeune fille qui traversent une ville fantomatique et quasi désertée pour rencontrer des passeurs, tenter de rejoindre une femme de l'autre côté de la Méditerranée. Une ville sans doute Beyrouth, mais qui agit ici comme un symbole. Muriel Malouf l'a vu pour nous.
Ce qui nous intéressait, c'était le rapport que pouvaient avoir des personnes qui traversaient la ville.
Renaud, co-réalisateur de La mer et ses vagues.
Et comment est-ce que des étrangers sont accueillis ou pas?
Les deux étrangers donc, dont on reconnaît l'accent syrien, traversent une ville fantomatique, loin du Beyrouth grouillant de vie qu'on connaît. Ils croisent un milicien qui vérifie leurs papiers, des fêtards en voiture qui les rabrouent, un marchand ambulant de café, autant de personnages hostiles dans une ville peu accueillante. Liana, co-réalisatrice.
Cette façon dont on met en scène Beyrouth vide, malheureusement, elle fait écho avec le Beyrouth qu'on peut retrouver aujourd'hui en 2024. La ville a subi de telles vagues d'immigration, plus une forme de flétrissement profond, et fait que, crise après crise, on a l'impression qu'on ne finit pas de l'achever, où il y a une forme de vide aujourd'hui.
Un vide que tente en vain de combler une marchande de loterie, vendant la chance à une population désespérée et incarnée par la truculente Hanan Hajali. Et puis il y a le gardien du phare, interprété par Roger Assaf, à la présence merveilleuse, gardien de la lumière dans Beyrouth où l'électricité est précieuse et déficiente. Il semble veiller sur le souvenir d'une ville.
Beyrouth, c'est une de ces grandes capitales dans l'histoire du monde qui a représenté une utopie, qui n'appartiennent à aucune philosophie, à aucune religion, à aucune idée, qui est le lieu où tout se rencontre. Je me rappelle du quartier juif de Wadi Abou Jmil, le quartier arménien, le quartier musulman, chrétien, tout cela se rencontre à Beyrouth sans qu'il n'y ait de conflit. Au contraire, cette ville extraordinaire n'existe plus. Elle a été détruite. En partie par la guerre civile, ensuite par les agressions israéliennes multipliées, par ceux qui ont détruit aussi les immeubles pour construire une Beyrouth moderne. Tout ça s'est accumulé, a fait de Beyrouth une ville martyrisée, dont il ne reste non pas la mémoire, mais le souvenir.
La mer et ses vagues, tournée en argentique, nous transporte dans un monde perdu où la vie surgit puissante, dans les traces d'une pierre, d'un bâtiment, d'une rue, et Beyrouth devient la métaphore d'un monde qui refuse de décliner.
Muriel Malouf pour La mer et ses vagues qui boucle cette demi-heure d'information africaine. Réalisé par Laurent Hérault ce matin, merci à lui, Pierre Pinto, à la rédaction en chef de l'information. Vous retrouvez Sébastien Duhamel à 4h30 en temps universel pour une nouvelle demi-heure sur l'actualité du continent. Je passe un salut amical ce matin à Antelme Dibolo. Gongon, vous nous écrivez de Gounougaïa au Tchad.
Et vous nous avez demandé de transmettre vos encouragements à notre correspondant à Bangui, Rolf-Steph Domielleux. C'est fait, bien sûr. Bonne journée sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La Guinée se dirige-t-elle vers un nouveau report de la fin de la transition ? Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que toutes les élections ne pourront pas se tenir cette année. Pourtant, le général Doumbouya avait promis un référendum et des élections générales en 2025.
Appel sur l'actualité 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone demain à partir de 8h10 TU.
RFI.